Je disais oui, on a aujourd'hui, tous la certitude d'une grande, de toute façon, on est dans la réalité d'une extinction. Tous les jours,
Il y a des guerres, des espèces qui disparaissent.
Plusieurs espèces qui disparaissent,
c'est très clair.
Des langues qui disparaissent, des dialectes qui disparaissent, etc. Donc on sait qu'on est dans des périodes de disparition et d'extinction, parce qu'il n'y aura pas moyen de les... Enfin, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on a quand même... on est des êtres humains, on a la foi, la foi en l'être humain, et on a besoin de croire qu'on va pouvoir... aller vers le mieux, on va pouvoir, donc moi personnellement, on a envie de transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, on a envie que nos petits-enfants puissent bien vivre, donc on va essayer de trouver des choses pour qu'ils puissent bien vivre, on va sans arrêt donner des conseils, mais c'est surtout qu'est-ce qu'on fait, nous, voilà, on est vraiment là-dedans, et les jeunes aujourd'hui nous interpellent de façon parfois très violente sur qu'est-ce que vous avez fait, etc. Mais imaginez que effectivement cet âge d'or existe, c'est quelque chose. Alors c'est plus qu'une poésie, c'est une illumination parce que on se dit l'être humain n'est pas si noir. Au moins il a trouvé le moyen de vivre en harmonie, parce que l'âge d'or, on peut le définir comme ça, comme une harmonie entre tous les organismes vivants.
Tout ce qui est vivant.
Tout à fait.
Donc, si on présuppose, si on est en train d'imaginer en 2400 un âge d'or ici au point de Montvert, c'est quelque chose qui va pouvoir, qui nous illumine quand même, qui nous redonne.
C'est, donc, c'est on l'idée. Est dans l'espérance.
Dans l'espérance, voilà.
Je crois que c'est l'idée, je veux dire, pour ce tarot, et son objectif. Et là, alors après bon, moi je ne connais pas l'avenir, je ne suis pas un prophète, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai un ami qui est un peu plus âgé que moi, on va dire un artiste surréaliste, bruxellois. Quand je lui ai présenté ce projet, puisque c'est un projet, c'est un chantier, il m'a dit, écoute, moi je suis désolé, je trouve ça super, mais je ne pourrais jamais m'investir dedans parce que moi je ne vois, dans 3 ans on n'est plus là. Voilà. Il était clair, il était pour lui...
Voilà. 3 ans.
Oui,
Mais si on écoute les témoins de Jéhovah, c'est demain. Mais ça fait des dizaines ou centaines d'années qu'ils le répètent.
Voilà. Après, je dirais, moi, je suis... Oui, je m'excuse, je t'ai terminé, puis je vous laisse parler. Je ne suis pas plus optimiste que ça, mais effectivement, pour rebondir, c'est que oui, c'est là, pour dépasser ce pessimisme. Voilà.
Et si vous les écoutez, eux, la fin du monde, c'est tout de suite. Mon épouse a une amie, heureusement qu'elle ne cède pas à ses propositions, qui est témoin de Jéhovah, qui un jour m'a dit, mais il faut relire Luc, Saint-Luc.
Oui.
Ben, j'ai dit, pour le relire, il faut déjà l'avoir lu.
Juste.
Que nous dit Saint-Luc alors? Enfin, Luc.
Mais, il serait annonciateur de cette imminence de disparition de l'espèce humaine. Mais ça fait tellement longtemps qu'il nous le serine que comment les croire.
Et puis on est dans le cadre d'une histoire.
Oui,
je veux dire, voilà, moi les témoins de Jéhovah, c'est une histoire. Le tarot de Pont-Montvert, c'est une histoire. Je ne donne pas de valeur plus importante à l'un ni à l'autre.
Mais ça, c'est une histoire qui a un substrat positif. C'est une lueur d'espérance, peut-on dire. Ça veut dire que c'est pas demain qu'est prévue la fin.
Alors, la fin de quoi, comment, et surtout, voilà, l'idée, c'est vraiment de voir. Après, comme je l'ai expliqué, parfois la parole va, des gens disent, ah oui, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, arriver. Je n'en sais rien de ce qu'il faut faire, mais par contre, c'est de dépasser cette morosité, plus que morosité, peut-être extinction ou difficulté. Vraiment. Il y a tous les jours, il y a des choses qui sont... Qu'est-ce qui pourrait, à un moment donné, faire que l'humanité vive en harmonie, en dehors de ce qui a pu se passer? L'amour, tu sais pas.
L'amour de l'autre.
Oui.
Oui.
Ben oui.
La notion d'autrui. Oui.
Voilà, la notion de l'autre.
L'autre.
Oui. Et on parlait de liberté. Est-ce que la liberté de l'autre est importante?
Ah ben oui. Moi, je crois qu'elle est fondamentale, la liberté de l'autre.
Oui, c'est sûr, on s'interrogeait sur cette notion de liberté.
On dit que la liberté de l'un s'arrête ou commence celle de l'autre.
Oui. Et donc, il y a effectivement un arrêt de liberté.
C'était quelque chose. Il n'y a pas un arrêt de liberté, moi, je ne pense pas. C'est bien. Ouais. Elle s'arrête là où commence celle de l'autre. Ça veut dire qu'elles sont indissociables. Et c'est ça qui est joli, là, donc, qui est merveilleux. Et c'est, voilà, et c'est là la notion de l'amour, je pense, pour moi.
Ouais.
C'est que ça prouve qu'on ne peut pas vivre l'un sans l'autre et qu'on ne peut pas être bien l'un sans l'autre.
OK.
Oui.
Alors, comment arriver à ça dans 400 ans Parce que là, pour l'instant, on n'y est pas. Enfin, je crois qu'après, il y a des personnes qui, effectivement, vivent l'amour, on le vit d'une manière ou d'une autre. Comment arriver à un amour qui fait que on soit amoureux de tous les gens autour de nous?
Il ne faut surtout pas être un adepte de Lacan à son moment.
Pourquoi?
Mais parce qu'il dit, aimer, c'est donner à quelqu'un qui n'en veut pas quelque chose que l'on n'a pas. Et en plus, il ajoute, et qui ne le sait pas.
Ok, c'est compliqué ça.
Non, mais les deux premières parties, ça se suit encore.
Ouais.
La troisième, c'est plus complexe.
Ouais, tout à fait.
Ouais. Mais si on l'écoute lui, on est cuit, quoi. Il n'y aurait pas de vrai amour. Alors j'ose espérer qu'il y en ait un.
Peut-être que le mot qu'il emploie n'est pas forcément le bon, ou la notion.
Fraternité de...
Je ne sais pas.
Alors, aujourd'hui, enfin, depuis quelques années, le terme de fraternité, il a beaucoup, enfin, il me semble, il a beaucoup été, c'est substitué à ce terme-là, beaucoup l'empathie. C'est devenu au niveau, on va dire, pédagogique, éducatif, etc. On parle beaucoup d'empathie. Ça parle de l'éducation, enfin, l'éducation même, l'accueil du nourrisson, je sais. Cette notion de se mettre à la place de l'autre, est-ce que c'est ça qui peut sauver de...
L'empathie, c'est vrai que c'est beaucoup quelque chose d'acquis, mais j'ai été frappé par une publication sur les gens qui sont insensibles congénitaux à la douleur. Il y a une maladie très rare congénitale dans laquelle, chez certains individus, naissent avec une absence de fibres nerveuses. C'est-à-dire que de leur vie, ils n'ont jamais connu la douleur. Ce qui fait qu'ils se retrouvent avec des fractures, des brûlures, des trucs comme ça. Et... Il y a un neurologue parisien qui a fait une étude là-dessus. Il avait fait un livre aussi qui s'appelait « Vivre sans la douleur ». Et il s'était aperçu, quand on testait ces gens qui sont insensibles congénitaux à la douleur, si on en prend 10, qu'on les fait, les met en présence d'une personne qui souffre, il y en a 9 sur 10 à qui ça ne fait rien. Ouais. Mais il y en a un qui n'a jamais connu la douleur, qui est éprouvé en voyant la douleur d'un autre.
Ouais.
C'est étonnant, ça veut dire qu'il y aurait une empathie préexistante, congénitale, ou spontanée.
Ouais, ouais, ouais.
D'ailleurs, il finit son bouquin en disant « Nous sommes tous des insensibles congénitaux à la douleur d'autrui.
»
Et c'est vrai.
Insensible congénitaux. Ça ferme des portes, hein, quand même. Insensible congénitaux.
Oui, mais c'est pas fou, parce qu'il y a peu de gens qui sont sensibles à la douleur de l'autre. En d'autres termes, l'empathie se raréfie, il me semble.
Ouais. Comment, la question,
parce que tu vois des gens qui ont un accident, des gens passent à côté,
ou pire, s'arrêtent et viennent avec leur portable faire des photos.
Ouais. Oui, c'est
terrible, encore pire.
Ah ben j'ai vu ça une fois, un gars dans la rue, inanimé, massage cardiaque, et puis des gens qui lui disent, mais dites, on n'est pas au théâtre. C'est des gens qui n'ont pas d'empathie.
Ouais.
Au contraire, et qui voudraient en tirer profit en se valorisant sur les réseaux sociaux ou je ne sais pas quoi. Donc on est à une époque où je pense que l'empathie est en voie de régression, il me semble.
Alors que dans 400 ans, si on imagine un âge d'or, ce serait plutôt quelque chose qui serait... comment, à un moment donné, effectivement, mettre en avant cette notion d'empathie ou qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui...
On a moins d'empathie, parce qu'on a le culte du soi.
Ouais.
Je pense qu'on a trop le culte de la personne.
L'ego.
Il y a une dame très âgée à la boulangerie, je la vois, je dis, passez devant moi, on était une quinzaine, allez-y, personne ne bougeait.
Ouais.
On l'a laissé poireauter.
Donc c'est quelque chose sur lequel on pourrait agir d'une manière ou d'une autre.
Ah ben oui, il y a peut-être une éducation à faire, mais il y a du boulot. Oui,
disons que peut-être que l'éducation pour l'instant n'est pas faite à ce niveau-là. Ouais. Enfin.
Mais moi, ça me frappe, parce que je trouve qu'il y a de moins en moins de... d'ouverture vers l'autre.
Ouais.
Voilà. Okay. Ouais.
Mais c'est une des solutions à une harmonie,
rien que le fait de dire bonjour, oui.
Ouais. Déjà,
il y a peu de gens qui me regardent comme une bête curieuse, si vous dites bonjour. Il y en a un sur deux, presque, qui ne vous répond pas.
Oui, tout à fait.
L'autre jour, on était sur un banc, j'ai dit, on va faire le test, on va dire bonjour à tous les gens qui passent. Il y en a 2 ou 3 sur 10 qui ne répondent pas, qui regardent ailleurs. C'est quand même choquant.
Tout à fait.
Je pense que nos parents, nos grands-parents n'avaient pas connu ça, les gens se saluaient.
Tout à fait.
D'ailleurs, il y en a même qui avaient eu coutume pratiquement de manger dans la rue. J'avais une grand-mère du côté de mon épouse qui s'asseyait sur le bord de sa porte, sur le rocher, avec son assiette, et discutait avec le passant.
Ouais.
Ça ne se voit plus. Ouais. Mon beau-père à la fontaine, dès qu'il voyait quelqu'un, crouc, il a grippé, il se présentait. Mais donc il n'y a plus d'empathie, il n'y a plus d'ouverture aux autres, les gens ne discutent par SMS.
Ouais.
On fait plus de textos que du langage oral.
Mmh. Ok. Donc ça, c'est de toute façon des choses qui seraient...
C'est une vision un peu pessimiste, mais j'ai peur qu'elle soit réelle.
Avant de poursuivre, je vais peut-être faire encore une petite parenthèse sur sur l'état de ce chantier et qu'est-ce qui existe pour l'instant. Ce qui est enregistré ici va être mis en ligne sur Internet. C'est une forme de base de données. De propositions pour arriver à un âge d'or. Et il y a une troisième étape qui va être une étape d'écriture, mais là qui est poétique quasiment, où les personnes qui seront intéressées, soit dans les cadres de résidence artistique ou autre, vont écrire comme si elles vivaient dans ce futur, se projeter en fait dans le futur. Voilà, comme ça c'est pour dire un petit peu le contexte de ce qui est en place et de qu'est-ce qu'on cherche à faire. Donc effectivement, cette notion d'empathie qui est importante, et peut-être deux choses que je vais préciser sur ce qui est déjà écrit. Parce qu'il y a déjà quelque chose qui s'écrit. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de l'informatique, d'Internet, de ce type de choses.
Les QR codes.
QR codes avec surtout l'adresse. Là, c'est effectivement... Vous pourrez écouter ce que vous racontez et ce que d'autres personnes ont raconté une fois que je l'aurai mis en ligne. Ce ne sera pas pour tout de suite.
Ah, d'accord.
Et, parce que bon, ça prend un petit peu de temps, j'ai une série de consultations à mettre en ligne, mais il y a déjà des consultations qui sont en ligne. Et là, on va dire, c'est ce qui sera écrit.
Alors, et où est la phase 1 ?
La phase 1, c'est moi. Là, maintenant.
Carrément.
C'est l'histoire.
C'est nous,
c'est moi. Enfin,
c'est
la consultation. C'est-à-dire c'est le fait que l'histoire que j'ai racontée.
Le collectage des paroles.
C'est-à-dire, je vous projette dans un futur, on va dire idyllique, avec une condition difficile auparavant. Et voilà. Et après, je dirais, je vous demande comment arriver là. Cette phase 2, c'est vous. Voilà.
Donc la clé du problème, c'est ne pas partir du constat actuel.
Oui.
Voilà. C'est en tout cas...
C'est bien là le mot d'espérance. C'est important.
Oui, c'est l'espérance. Voilà.
Démarrer de ce que vous proposez.
On voit la bouteille à moitié pleine.
Voilà. Et l'idée de partir dans 400 ans, c'est qu'effectivement, là, c'est difficile. Effectivement, pour moi, c'est très difficile de voir de l'espérance à très court terme. Je suis quelqu'un de... Voilà. Par contre, je peux... de façon fictionnelle, poétique, totalement détachée de tout, dire oui, dans 400 ans, ce sera l'idéal. Et l'idée, c'est de se projeter là. Pourquoi ? Parce que c'est ça, pour moi, qui, à un moment donné, peut amener des choses, peut-être, dans un futur plus proche. Mais en tout cas, de ne pas chercher à gérer peut-être des choses...
Vous serez un prophète du bonheur.
Je ne suis pas un prophète.
Mais
le tarot, oui. Le tarot pourrait être
tarot prophète. Interposé.
Par tarot interposé. D'autant que dans 400 ans, je serai mort. Hein, je veux dire.
Poésie. Revenons aux chansons, justement.
Oui.
Parce que tu dis, la poésie, c'est s'extraire du concret d'aujourd'hui, des relations qui nous désespèrent, peut-être, pour aller vers l'espérance. C'est vrai que la poésie, c'est toujours ça qui a permis. Et la chanson est une forme de poésie.
Oui.
Et si on réfléchit bien à tout... la poésie a toujours eu un temps d'avance, quand on parlait d'avant-gardiste, un temps d'avance sur l'espérance du peuple, etc. Mais ça a toujours... Et les espérances ont souvent été... Ou les, ont souvent été portés par des chants aussi.
Mmh. Oui, tout à fait.
Et ce qui est et finalement, ce sont des choses qui vont se répéter et s'imprimer dans nos mémoires. Mmh. Et quand on parle de mémoire collective, mmh. c'est assez curieux, que c'est assez marrant de voir que tu imagines que les gens de 2400 auront connaissance de ce qui a pu être fait par des espèces de comptines, de trucs. Ben oui, parce oui. qu'à l'époque, on disait, etc. Et c'est vrai que les chants ont toujours porté cette... Mmh. Et c'est vrai que si on veut combattre, on est très désespéré quand... Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour combattre ben justement la désespérance et le
voilà, mais si on veut aller dans la haine. Dans l'extrême de la désespérance, on reprend Voltaire qui disait quand on a tout perdu, quand on n'a plus d'espoir, la vie est un opprobre et la mort un devoir.
Ouais.
Ça, c'est l'extrême.
Oui.
De la constatation des négativités qu'on peut voir.
Voilà, mais là, bon, je pense qu'on doit aller au-delà.
Oui, d'accord, mais il faut prendre l'autre bout et la vérité devrait se situer au milieu.
Oui, oui. Mais je crois que la poésie est quelque chose, pour moi, effectivement, qui est fondamental, dans le sens où la poésie est la... Pour moi, après, c'est l'attaque du langage technocratique et, on va dire, du langage asservissant, du langage fonctionnel. Voilà, on a parlé un peu des poètes surréalistes... Ils avaient une forte envie d'attaquer le langage par la poésie et de combattre par la poésie des choses qui... voilà, je repasse. C'est un poète belge qui a proposé ceci. Comme je dis, pour avoir des ennemis, il faut pouvoir les nommer.
Ah oui.
Et dans la poésie, si on prend à l'inverse une version positive pleine d'espérance... Mmh. Il y a Baudelaire, à propos du vin, un soir l'âme du vin chantait dans les bouteilles. Mmh. « Homme, vers toi je pousse, ô cher déshérité, sous mon caveau de verre et de cire vermeille, un champ plein de lumière et de fraternité. » Donc on est aux deux extrêmes, plus ou moins.
Oui, mais bon, voilà, je veux dire... bon, et pour être plus dans... voilà, dernièrement, j'ai entendu parler d'un certain Aurélien Barraud, c'est ça?
Oui.
C'est qui est un
thématicien.
Scientifique. Hein,
ah non, scientifique.
Scientifique, oui. Aurélien. Ah, oui, avec des longs cheveux.
Oui.
Ah, la notion de poésie, pour lui...
comme Villani, oui.
Ouais, la notion de poésie, pour lui, est fondamentale. Alors,
ah, mais c'est sûr. Oui.
Il ne donne pas de définition. Il dit surtout, voilà, qu'est-ce que c'est que la poésie? Je ne sais pas. La poésie, c'est peut-être, oui, imaginer que dans 400 ans, on puisse vivre en harmonie, mais se donner les moyens de savoir aussi de comment y arriver. Et pas forcément se dire, voilà, aujourd'hui, je vais trouver comment. Parce que aujourd'hui, mais qu'est-ce qui pourrait éventuellement être une piste? Là, voilà, des pistes, on en a déjà eu quelques-unes. On a parlé d'amour, on a parlé d'empathie, on a parlé de... Voilà. Mais bon, on peut aussi... Alors... Pour dire ce qui est déjà écrit, parce que j'ai parlé de ce qu'on allait écrire, c'est un atelier d'écriture, un chantier. Mmh. Hein. Et donc tout ce qui est écrit, évidemment, peut être remis en question, parce que c'est dans 400 ans que ça va se passer. Mmh. Mais en tout cas, pour l'instant, dans cette vision poétique des 400 ans, l'ensemble de la population du pont de Montvert en 2413 a un niveau d'études à peu près identique. Tout le monde fait des études supérieures et tout le monde a un doctorat. Voilà, c'est poétique, hein, on est bien d'accord. Mais en tout cas, c'est une chose. Tout le monde a un travail dans la prospective intellectuelle. Et tout le monde a aussi au moins une, ou voire plusieurs tâches dans ce que j'ai appelé le care, le soin, au sens très large, le soin médecin.
Différent du cure.
Voilà. mais ça peut être infirmier, ça peut être faire le ménage, ça peut être
prendre soin,
au sens le plus large du terme, c'est-à-dire, donc je prends toujours l'exemple de fabriquer une chaise pour que les gens soient bien assis, c'est quelque chose qui est de l'ordre du care en 2413. C'est-à-dire que le care, voilà, c'est une proposition, là encore, en 2413, dans 400 ans, c'est ce qui va remplacer finalement, quelque part, le profit.
Mais d'accord. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une chaise pour gagner beaucoup de pognon, en raclant sur la qualité du support, on va faire une chaise pour que les gens
soient bien assis. C'est ce qui a été proposé pour l'instant. Ouais. Et ce qui est, voilà, l'idée, c'est de faire tenir un âge d'or. Donc, qu'est-ce qui peut faire tenir un âge d'or? lors des précédentes discussions, ce qui a été amené, ce qui a été un peu, alors je ne dis pas figé, parce que rien n'est figé. Tout ça est écrit sur un blog électronique, donc tout peut changer. Hein, mais on n'est pas, rien n'est écrit, ça c'est écrit dans le plomb, mais pour le reste, tout ce qui va se passer dans 400 ans, ça, c'est que ça peut changer, les mots peuvent changer, la langue utilisée peut être changée, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des propositions qui ont été données pour arriver à une relative harmonie, un niveau d'études équivalent, avec toujours une potentialité d'avancer dans son niveau d'études, de chercher, de faire de la recherche, tout le monde, tout adulte, et en même temps, tout adulte prend soin d'une manière ou d'une autre. Par exemple, l'archéologue qui a découvert ces traces physiques, elle est archéologue paysanne, et donc la moitié du temps, enfin en tout cas une moitié de son temps est utilisée à l'archéologie, l'autre moitié, elle est apicultrice, elle produit de la nourriture, voilà, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui ont inscrites. Le but, c'est d'arriver à inscrire d'autres choses.
Elle a plusieurs cordes à son arc.
C'est l'idée. Je ne sais pas si ça vous parle. Est-ce que vous pensez que un monde
multipotentiel, oui.
Un monde harmonieux peut.
D'ailleurs, j'avais un patron qui disait la spécialisation, c'est la réduction d'une fonction. Oui. Et j'ai tout le temps pensé. C'est okay. Vrai que quand tu es dans un truc toc, c'est comme si on voulait opérer un patient d'un problème abdominal, mais on oublie qu'il est insuffisant respiratoire, insuffisant rénal. Okay. Dans certains cas, il vaut mieux le laisser tranquille. Donc c'est le danger des spécialistes qui ne voient que dans un sens, un seul organe, au lieu de voir un ensemble humain.
D'ailleurs, j'ai appris lors d'une consultation avec un étudiant en médecine, qui avait une spécialité, enfin, pas une spécialité, mais qu'on appelle la médecine interne. C'est ce qui est censé s'occuper de...
Un peu de tout.
Un peu de tout. Ouais. Donc, justement, pour avoir ce regard plus global que sur le spécialiste.
Je connaissais un prof de fac qui avait affiché sur la porte de son bureau « Homme égale psy SM ». C'est l'homme est un complexe psychosomatique dans un milieu. Il y a le psychique, il y a le soma, le corps, et il y a le milieu. Il faut tenir compte du milieu, et quand ce n'est pas le milieu, c'est l'entourage, la famille. Le malade est indissociable de sa famille. Si on n'interroge pas sur la famille, il manque des choses.
C'est intéressant, parce qu'effectivement...
Psy-SM.
Parce qu'on parlait d'ego. Quand on dit psy-SM, la notion d'ego, elle est un peu mise de côté, puisqu'il y a quand même plusieurs...
Mais ego, c'est la personne qui pense qu'à lui.
Oui.
Là, c'est PSM, c'est une conception globale
c'est ça.
De l'approche humaine.
Oui, je veux dire, c'est très différent de ce qu'on peut avoir.
C'est l'écologie humaine.
C'est ça. Ouais. D'ailleurs, j'avais appris aussi que quand on a fini l'interrogatoire, il vous manque 50% du diagnostic.
Ouais.
Donc il faut interroger les gens, et si possible la famille.
Là,
qu'on découvre des choses, une dysfonction familiale qui entraîne des manifestations, même somatiques, chez une personne, qui elle n'a rien, mais qui souffre de l'autre. Donc elle a une empathie poussée elle aussi.
C'est intéressant ça, effectivement. Dans le sens où, moi en tout cas, quand j'imagine une harmonie... futur, qu'effectivement il n'y ait pas qu'un regard
uniquement sur la personne, il faut son psychisme et son entourage, puis le milieu dans lequel il vit, son habitation. L'habitation peut être elle-même source de dépression si les conditions sont néfastes.
Oui, tout à fait.
D'ailleurs, une famille hindoue, ils vivent à 5 dans une pièce et vont voir le chef du village, et comment on peut améliorer notre quotidien, il dit, mais faites rentrer la vache. Là, il fait rentrer la vache, ils sont 5, donc ils vont être 6. Puis une semaine après, il se trouve aussi mal, il va revoir le type qui dit, faites sortir la vache. Non, mais là, si vous voulez, on vit dans des conditions difficiles, déjà, c'est des conditions prédisposantes. À des détériorations au moins psychiques et puis secondairement physiques. Donc l'entourage est important.
Donc ce qui voudrait dire aussi que ce que l'on vit maintenant au niveau conditions n'est peut-être pas forcément idéal. C'est vrai que si à la manière dont on agit sur la planète pour l'instant, si on met...
On peut se faire du souci, oui.
Qu'effectivement, les conditions de vie individuelles, pour moi, enfin, seraient le reflet de ces... C'est des conditions planétaires difficiles, c'est quelque part. Si imaginer une harmonie, ça voudrait dire qu'à un moment donné, il y a un rapport peut-être plus proche avec l'environnement, la nature, la manière dont les gens vivent entre eux, vivent avec leur environnement, entourage. Il y a peut-être des choses effectivement à travailler à ce niveau-là.
Mm-hmm. Quand on voit la disparition des espèces et puis des arbres, simplement.
Ouais.
La pollution des océans, enfin, c'est vrai. On a du mal à s'accrocher pour trouver des bases d'optimisme.
Oui, après je crois que... oui.
Le tarot est probablement une piste.
Je dirais, voilà, après, c'est vrai qu'à très court terme, c'est délicat. Mais bon, se plonger peut-être parfois dans le passé, dans comment ont pu vivre certaines populations, certaines personnes, où effectivement ces conditions d'extinction étaient moins fortes, c'est peut-être intéressant, je ne sais pas.
Mais c'est sûr, dès qu'ils ne retiennent pas les notions du passé, ils sont condamnés à le revivre.
C'est
vrai qu'on a du mal à voir à cette notion d'accrocher. Comment est-ce qu'on pourrait s'accrocher les uns aux autres pour faire front et pour dépasser ces notions? Enfin, parce qu'en fait, si on réfléchit bien, quand même une immense majorité d'êtres humains qui peuplent cette planète, qui ont envie que ça aille mieux pour tout le monde, et qui, tous ceux qui souffrent, s'ils s'unissaient pour combattre ceux qui sont à l'origine du mal, ceux qui est à l'origine du mal, théoriquement, par la loi du nombre, ils devraient être vainqueurs.
Oui,
mais je crois qu'il y a une piste, c'est communiquer déjà. Parce qu'on voit dans des immeubles où des gens meurent, on s'aperçoit qu'ils sont morts quand on sent la putréfaction en passant devant la porte. Donc ces personnes décédées n'ont eu aucun contact avec les voisins. C'est un drame épouvantable. Moi je dis toujours, il vaut mieux passer à côté des choses que des gens. D'ailleurs un étranger, si vous dites un seul mot de sa langue, déjà le contact est établi, ça change tout. Ça change complètement la relation.
Et ce que vous disiez de dire bonjour, effectivement,
on
ne va pas pouvoir, soit seul, éradiquer la mendicité, mettre à l'abri toutes les personnes qui vivent dehors dans une grande ville.
Non.
Mais par un seul bonjour, on va redonner un peu le sourire. On va peut-être pas changer la situation de la personne, parce qu'on ne va pas pouvoir lui trouver un logement. Est-ce qu'il veut un logement d'abord? On lui demande, tu
vois. Non, mais j'arrive que lui parler.
Mais lui parler et lui
ça veut dire
prendre le temps de s'arrêter, dire qui est.
Voilà, je ne suis pas indifférent à ta personne. Un jour, j'avais vu un groupe de musique d'Amérique latine au Gros du Roi, puis je m'arrête à la pause et je demande à la dame de quel coin vous êtes. Elle me dit de l'Équateur. Puis elle me dit, je lui demande, est-ce que vous parlez le Quechua, la langue des Incas? Elle me dit oui. Alors, j'ai dit deux, trois mots, c'est les seuls que je connaissais. Puis en partant, elle me dit, que Dieu te garde. C'est magnifique.
Ouais.
Magnifique.
Ah oui, toi qui as communiqué avec moi et puis qui as un petit...
À San Francisco, j'allais à une réunion, je vois un monsieur à l'accueil, parce que je cherchais des documents pour prendre les navettes, le taxi est horriblement cher, puis je vois un monsieur avec un petit badge marqué Laos, je m'avance vers lui, je lui dis Sabahini, un peu comme fait notre président, sur un mode détourné. Et il m'a fait un sourire jusque-là. Le contact était établi. Puis au téléphone, je lui dis, ah, vous avez un petit accent d'Europe de l'Est, d'où vous êtes, etc.
S'intéresser à celui qui est en face de toi.
Mais rien qu'au marché. Des gens, vous avez un petit accent, j'aimerais bien connaître votre langue. Les Noirs, de quel pays ensoleillé êtes-vous originaire?
Le lien.
C'est ça le contact. C'est le pas lien. Les SMS. C'est affreux. Ça. C'est la destruction de tout. Et accessoirement de l'orthographe.
Oui, tout à fait. En tout cas,
ça fait peur.
Cette notion de lien est importante.
Ça disparaît, le lien.
Ouais. Et une des questions aussi que. Là encore, on se projette dans 400 ans, forcément harmonie, forcément lien, quelque part. En tout cas, si je suis ce que vous proposez. La question que je pose parfois, c'est de savoir si on vit un âge d'or au Pont de Montvert en 2413, est-ce qu'on le vit ailleurs?
Je ne suis pas certain qu'il y ait un parallélisme d'un pays sur l'autre.
Peut-on vivre un âge d'or si...
Ça dépend déjà un peu de sa culture. Mm-hmm. Si vous êtes sur un continent européen, oui, c'est probable, ou africain, oui. Mais je ne sais pas, il y a des zones. Je pense que c'est difficile d'homogénéiser l'âge d'or sur la planète.
On est dans le.
On est dans le plus total.
Moi, c'est juste une question, à la limite pratique, c'est si effectivement on vit un âge d'or au Pont de Montvert. Est-ce qu'on peut vivre un âge d'or au Pont de Montvert dans 400 ans si à Florac, il n'y a pas un âge d'or?
L'oracle, pardon.
Si à Florac.
À Florac, oui.
À Florac, il n'y a pas l'âge d'or.
J'ai tendance à dire que si. J'ose espérer qu'il y ait une évolution parallèle de par la proximité.
Oui, qu'en fait, ça, c'est quelque chose qui doit se diffuser. Je veux dire qu'on est... Enfin, moi, j'ai l'impression
sinon,
que...
Sinon, ce n'est plus un âge d'or. Ou alors, on est...
Oui,
c'est une...
C'est pas une...
Il faut imaginer une citadelle, une forteresse.
Voilà. Est-ce qu'une forteresse, vois, c'est un âge d'or?
Les bandes dessinées qui sont proposées, comme ça, sur les thèmes apocalyptiques, et ça, où on voit des bandes d'enfants hein, qui sont proposées aux jeunes, des bandes d'enfants qui survivent à un cataclysme, etc. Et il y a forcément tout de suite une... on se bat parce qu'on va avoir le dernier connaissance de l'eau propre, etc. Et puis, à un moment, on va essayer d'être ensemble, mais c'est toujours qu'est-ce qui marche, on va se malgré, il y a des clans différents, et on repart pour une nouvelle humanité de destruction, quoi.
Oui.
Ça présuppose que...
Que non.
Qu'on ne peut plus se bagarrer, on ne peut plus garder pour soi... Une partie, de toute façon, ce qui ne nous appartient pas, ça appartient à la planète. Si tu parles elle est quoi? Elle est apicultrice.
Elle est apicultrice, oui, tout à fait.
Donc ses abeilles lui donnent du miel. Il faut bien qu'il y ait des fleurs. Pour qu'il y ait des fleurs, il ne faut pas qu'elles soient...
Oui.
Il faut qu'il y en ait partout.
D'accord. Dans les pistes, je m'excuse si je vous coupe.
Non, c'est moi, j'aurais rien dit, normalement.
Outre j'allais dire le début d'une communication, c'est ouverture vers autrui, ne serait-ce que dire bonjour... Chaque fois qu'on rencontre une personne qu'on ne connaît pas, mais je pense qu'une autre piste, c'est le respect de la personne âgée, que nous avons perdu.
Mmh. Oui.
Il n'y a qu'à voir les catastrophes dans les EHPAD, le fait que les EHPAD se soucient beaucoup de cette nouvelle loi qui viendrait sur l'euthanasie, le suicide assisté. Les personnes âgées sont les premières à se dire « on va passer à la casserole ». En Afrique, le respect de la personne âgée est fondamental, souvent, et d'ailleurs même dans certains pays d'asile où les personnes âgées vivent à domicile.
Et quand vous parliez de respect de la personne âgée, justement, le parallèle à faire avec... C'est en Afrique, non, qu'on dit qu'une personne âgée qui meurt, c'est une bibliothèque
qui disparaît. C'est une bibliothèque qui brûle ou qui disparaît, oui. Oui, tout à fait.
Et le respect de la personne âgée, c'est respecter ce qu'elle a à nous... C'est entendre, écouter ce qu'elle a à nous transmettre.
Parce que là, maintenant, oui, on les met de côté, certaines les méprisent. D'ailleurs, tout à l'heure, j'étais très choqué parce que j'ai des amis qui sont sur le banc quand on va, la famille Moreau. Donc, ils étaient les deux fils, la belle-fille et le père qui a un certain âge. Et puis, un gars que je connais de plus qui arrive et qui dit, tiens, il y a trois jeunes et un vieux. Si vous me dites, c'est très relatif, la notion de vieillesse. Les jeunes d'aujourd'hui sont les vieux de demain.
Honteux.
Ce rapport, donc effectivement, effectivement, une harmonie, enfin, si on parle d'harmonie entre les animaux et les êtres humains, entre les êtres humains entre eux, forcément entre les générations, il y a cette notion d'harmonie qui doit être pensée.
Ça s'espère, vous êtes quelqu'un de, pour beaucoup de jeunes, quelqu'un de perdu parce que vous êtes vieux.
Il faut voir d'où vient cette croyance finalement, qui est une...
À la limite, je le verrai à part le monsieur pour lui dire, je ne partage pas tellement votre approche. Quoi. Mais je pense que c'est une des pistes d'amélioration.
Du rapport entre générations.
D'ailleurs, mon père un jour avait une expression qui m'avait frappé. Il disait, je ne suis pas encore bon pour le cocotier. En fait, certaines tribus africaines ont pour coutume devant une personne âgée, de la faire monter sur le cocotier, de secouer l'arbre, et puis s'il tombe pas, s'il est encore bon. Donc j'avais appris ça, c'est une façon de sélectionner.
Oui, oui, oui.
Mais c'est tristement vrai.
Oui, après voilà.
On n'est pas encore là, mais c'est un peu ça.
Disons que ça va se poser, compte tenu de l'évolution démographique, il y a des choses qui sont des questions qui se posent et assez violentes par rapport à.
En fait, donc, les pistes positives, c'est ouverture à l'autre avec le respect de l'autre, la communication, même minime, respect des personnes âgées, dialogue avec elles, c'est pas toujours facile. La communication est parfois un peu compromise par quelques petits troubles, mais ça n'empêche pas de communiquer.
Tout à fait.
C'est Saint-Exupéry qui disait « Tu es différent de moi, mon frère, mais loin de me léser, tu m'enrichis. » C'est ça qu'il nous faudrait mettre dans les têtes.
Ouais. Bien. Vous avez peut-être entendu une petite sonnerie, c'est parce qu'effectivement, nous avons passé déjà une petite heure à discuter ensemble.
Ça va vite.
C'est le terme qu'on s'est proposé de donner aussi bien à Christiane.
La cloche de l'optimisme.
Mais disons que voilà, c'est juste pour dire la conversation, elle continue. Elle continue via éventuellement. Non. À Internet. Le tarot, qu'est-ce que c'est? Comment il va arriver? Donc vous avez vu que le tarot, ce sont des objets. N'hésitez pas à aller les voir. Les objets ici sont entre guillemets en vente, mais ce n'est pas ce qui va faire vivre le tarot de façon... c'est simplement parce que parfois les personnes veulent avoir les images, veulent avoir les textes et s'y référer. Le futur du tarot, c'est que c'est un chantier. Et donc l'idée, c'est que cette étape, la étape de consultation, c'est une étape. La troisième étape, c'est l'écriture. C'est ce qu'on a déjà un peu évoqué, cette notion d'avoir plusieurs métiers, d'avoir plusieurs... c'est des choses qui sont écrites, mais qui peuvent encore évoluer. Et effectivement, les consultations orales, ce qui va être enregistré sur Internet, vont nourrir ces écritures. Voilà, donc
qui existe déjà.
Oui, qui existe déjà. Donc, effectivement,
il y a beaucoup de gens qui ont écrit.
Il y a déjà de toute façon beaucoup de gens qui se sont exprimés. Donc, déjà, vous pouvez écouter ce qui a été dit pendant ces consultations. Ça, c'est sur la phase 2. Donc, il y a un code QR, mais il y a aussi un URL. Hein, si on tape nuage, les choses imprimées.com. Voilà. Si vous n'avez pas l'habitude des codes QR, l'URL.
Je sais plus,
je viens
d'avoir un téléphone.
Oui, mais moi, j'utilise. Je n'ai pas un téléphone très sophistiqué. Ma tablette. Mais donc, en tout cas, c'est un site internet. Et
par contre, aussi ce qui est déjà écrit.
Oui, et il y a aussi ce qui a été écrit sur la phase 3. Mais c'est surtout cette phase qui va être développée au cours de résidence collective et d'écriture collective, où là, les gens vont se proposer de se projeter en écriture, dans le futur. Là, on l'a fait au niveau oral. Là, il s'agira d'écrire et se mettre dans la peau de quelqu'un qui vit au XXe siècle, qui va parler de son présent. Voilà. Donc là, l'exercice est encore différent, mais il fait suite à ce qu'on a fait en nourrissant ces conversations. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. On était peu nombreux, mais je pense que la discussion était tout à fait riche.
C'était riche, oui.
Et c'est le plus important. Et voilà. Donc, alors, pour se tenir au courant, il y a un site internet. C'est mes coordonnées avec le site. On arrive plus ou moins. Si on a envie de savoir ce que devient le tarot, il y a toujours moyen de le savoir. Et de toute façon, il y aura encore des présentations. Au Pont Mont Vert, il va y avoir des présentations ailleurs aussi, et surtout il y aura des ateliers, et ça effectivement.
Vendredi prochain, vous y serez ?
Non, vendredi prochain, malheureusement, j'ai annulé la dernière consultation parce que je dois préparer des travaux dans la maison.
Ah, oui.
Et voilà, je suis un peu désolé, il n'y a pas de personnes qui se sont inscrites, donc non plus, je me dis, voilà. De toute façon, il y a toujours moyen d'aller voir sur le site ce qui existe et de nourrir, de parler devant un micro. Dernièrement, on a eu une conversation avec ma compagne. On s'est dit, tiens, on a parlé sur la notion d'héritage.
Oula.
Oui. Bah oui, mais bon, voilà. Est-ce que la propriété dans le futur, l'héritage, la transmission, la propriété, est-ce que dans 400 ans, est-ce qu'on héritera de ses parents? La structure familiale dans 400 ans, enfin, voilà. Tout ça, ce sont des chantiers, parfois, bon, on se posait la question. S'il s'agit de se poser des questions pour l'instant. Après, bon, l'écriture de nos structures familiales, ça, c'est ce troisième temps, cette activité que peut reprendre par rapport à ça, quoi. On a eu cette discussion suite à des amis qui avaient des problèmes d'héritage. Et on se dit qu'est-ce que c'est parfois c'est plus problématique.
C'est fréquent, ça, oui.
Voilà. Et surtout, bon, est-ce qu'il est important d'hériter
De
quoi est-ce qu'on hérite?
Est-ce qu'il y aura des biens?
Est-ce qu'il y aura des...
Si on est tous
En état d'harmonie...
Est-ce que c'est...
Ah oui, là encore...
On est soviétisés.
Oui, c'est là aussi la notion... On a beaucoup parlé aussi du communisme, au sens, on va dire, premier du terme, qu'à un moment donné, si on... la liberté des uns s'arrête pour l'instant,
mais celle des autres.
C'est celle des autres. Pour l'instant, dans le capitalisme, non, c'est la liberté des plus riches face donc la notion de liberté est galvaudée, je dirais, en régime libéral. Je veux dire, hein. Mmh. On est bien d'accord. Mais qu'est-ce qu'à un moment donné, qu'un régime plus collectif, comment va-t-il gérer la liberté individuelle? Comment sous ces questions vont continuer à se poser, à se nourrir et éventuellement à des ébauches de réponses, en sachant que le but, c'est de trouver une réponse, pas demain, dans 6 mois, dans 3 ans, mais dans 400 ans. Voilà. Le tarot de Pont-Nonvert. Merci en tout cas de votre participation.
Mais la puissance du langage, ça va très loin. Là.
Oui. Ça, c'est un poète belge qui s'appelle Paul Nouget qui a écrit
Comment
ça.
Comment s'appelle?
Paul Nouget. C'est un monsieur qui croyait qu'on... C'est un des chantiers, d'ailleurs, hein, je pense qu'il serait important dans le cadre du tarot, c'est le langage, comment on l'emploie, comment on le mésemploie aussi, et comment la poésie peut le modifier. C'est vraiment... Lui, il pensait vraiment que le... Voilà, il avait un côté performatif pour lui dans le langage, et qu'effectivement, dire certains mots, ne pas les dire, avait une efficacité. Je crois que c'est quelque chose de très juste. Après...
Ce qu'il dit, c'est supprimer les langues et les orientations politiques.
Les mots. Il ne parle
les
que des
mots. Les mots correspondant aux orientations.
Si, en tout cas,
des mots d'orientation, ce qui peut être communiste.
Si, oui, tout à fait. Mais si à un moment donné, pour l'instant une guerre entre la Russie et l'Ukraine, Israël et la Palestine, si on supprime les mots ukrainiens, russes, quand on voit ce que c'est parfois... à 3 mètres qu'on est ukrainien ou qu'on est russe, il y a un impact à désigner son ennemi, à lui donner un nom, à le nommer.
Mais là, c'est une façon d'occulter, en fait, les différences.
Les occulter, en tout cas, les appeler peut-être différemment.
Mais il dit supprimer. Supprime le substantif. Alors,
substantif,
soit on le remplace par autre chose, soit on supprime
définitivement. Par exemple, moi, très souvent, quand je vais en Belgique, j'ai vécu beaucoup plus longtemps en Belgique qu'en France. Et on me dit, est-ce que je suis français? Moi, j'aime pas dire que je suis français. Pourtant, je le suis. Hein. Je suis de culture française, ça c'est clair, parce que ma culture a été fort imprégnée. Mon éducation s'est faite. Donc, je suis plus peut-être de culture française que de culture belge. Mais me dire français, à un moment donné, peut me paraître...
C'est gommer vos origines lointaines.
Toutes les autres aussi. Hein.
Oui.
Oui, roumaine, espagnole.
Parce que j'ai passé sous silence.
Oui, oui. Et voilà, enfin, après, c'est... Voilà, dans 400 ans, y aura-t-il encore des nations? Voilà.
Il y aura toujours les racines, hein.
Oui, mais ça, les racines, c'est une chose.
Puis on va évoluer comme ça.
Les racines, c'est une chose. Là, c'est là où les mots sont importants. Les racines, c'est une chose. La nationalité, c'en est une autre. Je crois que c'est... voilà. En tout cas, Paul Nouget était très, très attaché à la précision des mots et à leur pouvoir, et la puissance, effectivement, qu'ils ont. Après, il n'a pas empêché la guerre, il n'a pas réussi. Mais bon, je pense que sensibiliser à cette précision du langage, à cette puissance du langage, peut être intéressant.
On peut prendre le nom de ce
Paul Nouget, oui. Oui, c'est un drôle monsieur. C'est un monsieur qui n'a jamais voulu être connu. Il a gagné sa vie comme... Comme laborantin. Il était scientifique, il a une formation scientifique. Et il faisait des analyses dans un laboratoire. C'est comme ça qu'il a gagné sa vie.
Par Paul Nouget.
Paul Nouget. N-O-U-G-E. G-E-E accent.
Ah, Nouget,
oui.
Accent aigu.
Et, accent aigu, Paul Nouget. Mais c'est l'équivalent, je dirais, en tout cas dans l'esprit de Breton, sauf que Breton avait un ego assez surdimensionné, alors que lui, il n'a jamais voulu signer quoi que ce soit, il n'a jamais gagné d'argent en vendant de la littérature. Il a toujours fait ça parce qu'il pensait que ça pouvait changer la vie. Mais voilà. Et donc ses écrits sont très, finalement, quelque part un peu difficiles à trouver. Vu qu'il ne voulait pas vraiment. Il a surtout fait des tracts, des pamphlets, il écrit dans des revues. C'est ce que j'expliquais aussi, c'est que c'est un ami à lui qui a voulu tout. Marcel Marien, aussi un surréaliste belge de la génération suivante, qui a réuni ses écrits. Mais sinon, voilà, c'est assez difficile à. C'est un peu difficile d'accès, mais une fois qu'on rentre dedans, c'est assez merveilleux. Parce qu'il avait un. Puis bon, c'est quelqu'un, bon, des gens qui, à un moment donné, se disent « Bon, non, moi, je ne ferai jamais une œuvre, mais par contre, j'écris. » Voilà, là, l'ego, il avait un ego, il était bien placé à un endroit, mais pas où les auteurs actuels le placent, je veux dire. Là, il n'a jamais gagné sa vie comme auteur. Mais bon, pour moi, ça reste un des poètes les plus... un des plus importants du surréalisme en Belgique, comme en Europe, comme dans le monde. Je vous laisse le plaisir de le découvrir. Oui. C'est dommage.
Il y a beaucoup d'ego surdimensionné.
Oui. Oui.
Car
oui.
J'ai connu un cardiologue dont la jeune épouse disait il faut vraiment des passages larges pour qu'il puisse passer, lui, et son ego, au niveau des portes.
Voilà.
Je ne veux pas qu'on dise ça de moi.
Non, mais je veux dire, voilà, c'est pour ce qu'on met en avant pour l'instant, je veux dire, quand on voit Donald Trump, Elon Musk, bon, je ne parlais pas de notre président, mais il y a un côté où on
notre
sent que
président parfois, aussi qui fait comme ça.
Oui, je veux dire, voilà, c'est, on privilégie ce type d'homme.
C'est navrant, oui,
c'est le chef.
On est loin de Gaulle, sa retenue, sa modestie.
Ça restait quand même,
Le coût du le respect du coût des choses, parce qu'il avait fait installer un compteur électrique pour payer sa propre consommation.
Oui, voilà.
On en est loin avec les centaines de millions qui partent à coup de Falcon pour les déplacements. Ouais.
Et malgré tout, il avait taillé une constitution à sa mesure. Maintenant, plus personne. Enfin, cette constitution est inutilisable parce qu'effectivement, elle a été faite quelque part pour une époque et pour une personne. Enfin, c'est voilà. En tout cas, la notion d'ego, elle est à revoir.
Je vous donne un exemple. Quand j'étais jeune interne, la grande visite, et puis un externe qui passe devant le chef de service, qui est un monsieur très collé-monté, très 16e. Ce malheureux externe passe devant le patron qui lui dit « Mon jeune ami, veuillez vous ôter de là, que la lumière se réfléchisse sur ma feuille et que mon esprit s'éclaire. »
Oui. Mais oui, je crois que... Voilà.
Si vous êtes de mieux, je vous donne un autre exemple. C'est un dermatologue parisien, très collé monté. Souvent, il se faisait filmer avec la blouse, avec le col relevé. Puis un jour, il se trouve à une émission avec Rika Zaraï. Et à un moment donné, Rika Zaraï dit... Oui, il y a Escande qui a dit tout à l'heure. Alors il la reprend, il lui dit, s'il vous plaît, professeur Escande.
Oui.
Et lui, Rika Zaraï, elle dit, mais moi, on m'appelle bien Rika, je ne vois pas pourquoi je vous appellerai pas Escande. Oui. Lui, il dit, dans ces conditions, appelez-moi Popol. C'était Jean-Paul. Je vous jure, mes yeux vus.
Oui.
Alors, ce mec... Voilà. Très cohérenté, écoutant son langage.
Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en tout cas, dans 400 ans, tout le monde sera docteur. Donc, il n'y aura pas ce type de problème.
Je sais pas. Est-ce que tout le monde sera... Je ne suis pas sûr.
Dans l'imaginaire du tarot de Paumont Vert.
Qu'est-ce qui vous dit que ce ne sera pas le contraire? Qu'il y aura un nivellement par le bas?
Ah non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je projette une fiction. Hein.
Bien sûr.
C'est ma fiction.
Mais c'est une variété de fiction.
Oui, oui. Ah, après,
serait-ce la bonne ?
Voilà, moi, je reste au niveau fictionnel et poétique, ça effectivement.
Qu'on dérive.
Mais dans le, c'est une fiction dans, en s'appuyant sur la... quand tu parles à niveau d'étude,
oui.
Avec l'idée, la fiction, c'est que les gens soient dans la recherche, c'est-à-dire dans le plaisir de
oui, bien de sûr. Recherche. Oui, mais ce que je veux dire, c'est...
Pas pour avoir un doctorat, pour en
voilà,
avoir
voilà.
Un
non,
doctorat.
Non,
c'est pour c'est, connaître.
Oui. Non, pour connaître, c'est juste, je dirais, bon, dans cette projection d'un futur harmonieux, une des idées qui est venue parmi les premières, c'est que pour qu'il y ait une harmonie entre les gens, il n'y a pas un qui est au-dessus des autres. Parce qu'il d'accord. a fait des études, parce qu'il a fait... Moi, monsieur, appelez-moi docteur parce que j'ai fait 7 ans d'études. Oui. Non, ils ont tous fait 7 ans d'études. Donc voilà, c'est qu'à un moment donné, effectivement, cette notion d'écho, elle est gommée dans la fiction, hein, on est bien d'accord, hein, dans cette fiction et dans cet univers. Voilà, c'est juste pour... Voilà, merci beaucoup en tout cas. Ben, je ne vais pas te retenir peut-être.
Tu as fait jouer les prolongations.
Oui, oui, oui.
Comme en Coupe d'Europe.
Mais tant mieux.
Sauf qu'il n'y a pas d'arbitre.
Mais je crois que la conversation est ce qui permet de faire avancer les choses et que la parole, les mots, le langage, c'est là pour ça et c'est surtout là pour ça. Mais, et surtout de faire prendre conscience aux gens que, ben, que d'autres personnes aiment bien utiliser le langage pour les manipuler.
Ah, ben,
ça, ah ça, c'est vraiment ça,
oui.